Bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. On va commencer ce soir par la prière. Notre Dieu, nous te bénissons pour cette réunion que nous avons autour de ta parole et te prions d'éclairer nos cœurs afin que nous puissions vivre encore plus près de toi avec encore plus de conscience de ta présence avec nous. Merci Jésus. Amen. Alors on va lire 1 Corinthiens 1, 10 à 13 ce soir. C'est Paul qui parle et qui dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet, par des gens de Chloé, qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, et moi, je suis de Céphas, et moi, je suis de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? » Je voudrais qu'on lise maintenant au chapitre 3, verset 11 à 18. Il continue, il dit... Parce que là, il continue ce qu'il dit là, ce que je vous ai lu, et puis il fait une parenthèse, il parle d'un tas de choses, mais là, il reprend de nouveau ce qu'il est en train de dire, et il dit « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître. » Parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou, afin de devenir sage. Amen. Frères et sœurs, nous avons appris beaucoup de choses depuis que nous vivons en communauté avec toutes ces années, mais qu'est-ce que nous avons appris de très important? Bon, ce que je trouve de plus important, c'est que la vie est communication, la vie est communion. Et la communication entre êtres humains, elle est faussée quand il n'y a pas d'abord communion avec le Seigneur. Un homme, une femme ne peuvent pas être seuls quand ils sont en communion avec Dieu. En communication, en relation avec le Seigneur. La Bible, c'est le Verbe. Dieu y parle. Et quand on l'a entendu, on communique en toute confiance avec ceux qui l'ont entendu également. Parce que on parle le même langage. Parce que nous avons le même cœur, parce que nous avons les mêmes buts. Un enfant de Dieu se sait accompagné par le Saint-Esprit, par les anges aussi, et une telle personne reconnaît ceux qui ont cette même relation, cette même communion, cette même communication avec l'être éternel. Parce que l'unité est là, le un est là. Dieu avait dit, en voyant Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons une aide pour l'homme. Dieu savait, par expérience, qu'il n'est pas bon d'être seul. Et maintenant, l'homme et son épouse, l'homme est l'aide de Dieu. Son épouse, du moins ceux qui communiquent avec son époux. Une épouse qui ne communique pas avec son époux, bizarre. Dieu lui communique, il nous a donné une lettre, il nous a donné un livre, il nous a donné son esprit. Maintenant, c'est à nous de parler aussi. Et le minimum, c'est donc le dialogue, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu et la prière. Pas la prière seulement, ou pas la lecture seulement, ou, ce qui est encore pire, ni l'un ni l'autre. Et je vous ai souvent dit, on ne peut pas aimer Dieu plus qu'on aime nos frères et sœurs. Ce n'est pas possible. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas tes frères et sœurs que Dieu a fait et qu'il aime, lui, et que vous voyez? Alors, vous ne communiquez pas plus avec Dieu que vous ne communiquez avec votre prochain et en particulier avec la personne que vous avez épousée. Paul dit, l'homme est la gloire et l'image de Dieu. Et il continue en disant, et la femme est la gloire de l'homme. On trouve ça dans 1 Corinthiens 11, 7. Et je veux dire ici, je veux rendre témoignage que Michou, c'est ma gloire. Ça signifie que la femme est à l'homme ce que l'homme est à Dieu, son épouse. Le psalmiste, il s'écriait, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, c'est-à-dire pour que tu l'épouses. Fou quand même ça. Le vrai homme se sent inaccompli face à Dieu, comme une vraie femme se sent inaccomplie sans son homme, même si elle est mariée, si son homme ne lui parle pas. Se sont inaccomplis. Alors, le vrai homme et la vraie femme épousent le chemin de l'accomplissement et Jésus est ce chemin. Alors, ça, c'est des jolies phrases religieuses, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pourquoi ce n'est que en Jésus, Dieu fait homme, que l'alliance divino-humaine devient possible. Sans Jésus, c'est pas possible. Parce que Dieu est trop élevé par rapport à nous, surtout depuis que nous avons chuté. Alors les autres, ceux qui ne rentrent pas dans cette communication, dans cette communion avec Dieu, ils se laissent manger par l'adversaire, qui est un lion rugissant qui cherche qui va pouvoir dévorer, et ils abandonnent leur vie dans les griffes de faux époux. Et ils rompent ainsi l'alliance sacrée avec Dieu. Ils se croient libres, mais en fait, ils s'asservissent de plus en plus. Et plus le temps passe, plus ils sont sous un asservissement. Et Dieu essaye de lui faire comprendre ça. Dieu fait prendre conscience à Adam et Ève, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front, à partir du moment où il y a eu division. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes à la terre dont tu as été séparé. Parce que tu es que poussière et c'est vers la poussière que tu dois retourner. C'est-à-dire tu dois retourner de là d'où tu viens. Il faut que tu te souviennes d'où tu viens. Il faut que tu t'en rendes compte. Et ce n'est pas une malédiction que Dieu fait là à l'homme. Dieu n'est pas en train de lancer une malédiction, contrairement à ce qu'on pense généralement. Non. Dieu lui montre le chemin aliénant, voire mortel, qu'il vient de choisir, et il lui montre la libération possible. Voilà ce que Dieu est en train de faire quand il lui dit ça. Un retournement radical vers son Dieu. Tu ne peux revenir à Dieu qu'en mourant, qu'en retournant à la poussière, qu'en retournant à ton rien. En reconnaissant que tu es rien, tu te prends pour quelque chose, tu es rien. En mourant à toi-même, alors ta vie sera dure jusqu'à ce retournement. Ta vie sera dure jusqu'à cette conversion. Ta vie sera dure jusqu'à cette mort à toi-même. Alors prends conscience que tu n'es que poussière. Cesse ta rébellion idiote, ta position de rebelle te perd, tu crois que tu t'es libéré, tu t'es pas libéré, tu vas droit dans le mur des lamentations. Alors, il est en train de lui dire, n'attends pas de mourir pour mourir à toi-même. Souviens-toi d'où tu as été tiré, de la poussière, c'est-à-dire de rien, t'es rien. D'ailleurs, le t'es rien. Ça, c'est un jeu de mots. Hein, Dominique, c'est un jeu de mots. Tu vois, tu n'as pas pensé à celui-là. Hein. Alors, retourne à ta poussière, retourne à la poussière. Ça signifie, prends conscience de la nature éphémère et puis cesse d'être orgueilleux, meurs à toi-même, prends ta place juste. Tous les rebelles sont sur un chemin aliénant. Peu de gens savent ce que ça veut dire aliéné. Qu'est-ce que ça signifie, aliénant? Ben, c'est un mot français et on trouve deux significations de ce mot dans le dictionnaire français. Un chemin aliénant, c'est un chemin qui te soumet à des contraintes, qui fait de toi un esclave. C'est un chemin asservissant. En te rebellant contre Dieu et contre l'ordre établi, auquel tu n'as rien compris, tu abandonnes, tu perds ton droit naturel. Pour un plat de lentilles, quoi. C'est pas nouveau, hein. C'est pas nouveau, hein. Tu es dépossédé de toi-même par la soumission de ton existence à un ordre de choses auquel tu participes, mais qui te domine et qui va te conduire à la destruction si tu ne fais pas un retournement, si tu ne retournes pas à la poussière de ton propre gré. L'aliénation, c'est la transmission à autrui d'un bien ou d'un droit. Voilà ce que signifie ce mot. C'est le dictionnaire qui le dit. Et c'est ce que Adam et Ève ont fait. Et il n'y a qu'un moyen pour retrouver notre bien et notre droit, c'est de retourner à la poussière, de mourir à nous-mêmes, de ne pas attendre la mort. Comme ça, en continuant à vivre comme ça, non. C'est de retourner à la poussière, de mourir à nous-mêmes. Et ce que Dieu dit là, dans Genèse 3, 19, ce n'est pas une malédiction, c'est une indication. Il montre le chemin du repentir. Il montre le chemin du repentir. Mon frère, ma sœur, le monde souffre. Hein, tu travailleras là sur ton front, etc., etc. On pourrait dire, mais alors pourquoi il ne se repent pas, il souffre? Eh bien, parce qu'ils ont pris l'habitude. On prend l'habitude, on dit, bon, ben voilà, c'est comme ça, c'est des souffrances, c'est normal, c'est la vie, voilà. Non, la vie, c'est pas ça, Dieu n'avait pas prévu ça. Le monde entier est dans la souffrance, il souffre, mais il ne se repent pas. Je suis frappé quand on lit l'Apocalypse et qu'on voit que Dieu va envoyer des fléaux, des machins, des choses. Ils ne se repentent pas, au contraire, ils blasphèment encore davantage, ils se détournent encore davantage de Dieu. Et pourquoi les dissidents ne se repentent pas? Ben, c'est simple, parce qu'il y a une saison du plaisir dans le péché, c'est-à-dire dans l'erreur. Il y a une saison du plaisir dans la rébellion. Ils se sentent forts parce qu'ils ont pris une décision, eux. Quand on prend une décision soi-même, on se sent fort, même si elle n'est pas bonne, même si elle n'est pas bonne. Ils se croient juste, ils ont pris une décision. Mais le retournement, la conversion est impérative. Elle est impérative. Parce qu'il y a un moment qui arrive où la ligne de démarcation est franchie. Et là, c'est plus possible. Le mot aliénation, là, il prend son deuxième sens, celui de folie. Voilà pourquoi la Bible nous parle de vierge folle. C'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Pour mieux comprendre, regardons un petit peu la signification de la résurrection de Lazare. Lazare, il connaît Jésus, il l'a invité chez lui, il l'a entendu parler, hein, tout ça. Mais il est en rupture d'alliance. Pourquoi? Parce qu'il ne le suit pas, il reste chez lui, au revoir, à la prochaine. Hein, il n'est pas en communication, il n'est pas en communion avec lui, il n'a pas tout laissé pour suivre Jésus et son équipe. Il ne suit pas, il est en rupture d'alliance, il ne vend pas tout pour suivre Jésus. Il continue à vivre avec ses deux frangines. Et voilà. Jésus, il aimait Lazare, comme Jésus aime son Église. Mais Lazare était malade. Et cette maladie, elle a empiré, comme l'Église. L'Église de Christ, aujourd'hui, elle est malade. Et il a fallu qu'il meure comme il faut que cette Église meure à elle-même et à ses prétentions. Lazare, en hébreu, ça signifie l'aide de Dieu. Mais pas dans l'idée de l'aide que Dieu apporte à l'homme, mais dans l'idée que l'aide que l'homme, en tant qu'épouse, apporte à son Dieu. C'est dans ce sens-là. Or, l'aide de Dieu est morte. Lazare est mort. L'épouse est morte. Elle ne sert plus Dieu, elle se sert elle-même. Et le tombeau pue. Ce que les sœurs disent, hein, ils sentent déjà, parce que là-bas, ils sentent. Alors Jésus frémit, et il pleure, et il prie le Père, et il s'écrie d'une voix forte à l'homme qui est déjà là dans son tombeau et qui pue, « Lazare, sors !» Et alors le mort sort. L'épouse ressuscite. C'est ce qui est sur le point d'arriver de nos jours. Aujourd'hui, la Bible dit que les vierges folles et les vierges sages dorment, n'est-ce pas? Et c'est exactement ce que Jésus avait dit au sujet de Lazare. Il dort. Ah ben, s'il dort, ben voilà. Bon. Rappelez de la conversation qu'il avait eue avec. Il dort, Jean 11, 11, pour ceux qui veulent aller vérifier. Mais ce sommeil-là, c'était la mort. Et de nos jours, l'épouse, elle est comme Lazare, elle est morte. Jésus dit, elle dort, je vais la réveiller. Le réveil, ce n'est pas 1000 inconvertis qui vont venir au portail pour donner leur vie à Jésus. Le réveil, c'est le réveil de l'épouse. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il pousse son cri. Il se révèle et il vient pour réveiller et relever d'entre les morts. Il redonne la vie en redonnant sa parole, en rétablissant sa parole. Et nous retrouvons l'alliance et les alliances et la dimension d'épouse divine qui aide le Seigneur dans son œuvre de rédemption, avec par exemple le baptême pour les morts et ces choses-là. On va un peu plus loin. Lazare, il avait deux sœurs qui vivaient avec lui. Il y en avait une qui servait dans le simple service quotidien, l'autre dans la contemplation muette. Elle était là, elle était dans l'admiration devant Jésus. Ainsi, comme elles, ces deux, nous avons aujourd'hui à préparer la résurrection de l'humanité chrétienne qui s'enfonce dans une mésalliance et qui creuse son propre tombeau, qui est déjà couché dedans et qui commence déjà à puer sérieusement. Les deux sœurs de Lazare sont les types, la typification de ceux qui s'activent plus ou moins spirituellement, à préparer la venue de Jésus pour réveiller l'épouse. Il y a un autre texte qui nous dit, au milieu de la nuit, on cria, l'époux vient, Matthieu 25, 6. Ce on cria, ce sont les Marthe et Marie qui aiment Jésus, mais des amis dans le sens de Jean 15, 15, vous êtes mes amis parce que vous faites ce que je vous commande, hein. Dorment pas. C'est des amis qui dorment pas parce qu'ils font ce qu'ils commandent, et quand on fait ce qu'ils commandent, alors il nous parle, il nous dit des choses, il nous tient au courant des choses. Et tous se réveillent, même les folles, malheureusement. Les folles se réveillent aussi. Et tout à coup, elles se réveillent. Mais elles sont toujours aussi folles qu'avant. Elles se réveillent, mais folles. Elles étaient folles quand elles étaient vivantes, c'est-à-dire quand elles sont nées de nouveau. Elles étaient déjà folles avant, elles sont folles, elles sont converties, elles étaient encore folles. Elles sont mortes, elles étaient des folles mortes, des folles fortes. Voilà. Et puis elles ressuscitent, mais elles ressuscitent folles, toujours folles. Mais folles. C'est une question de nature. C'est une question de nature. C'est quoi une vierge folle? C'est une personne qui aime Dieu, qui se garde pour son Dieu, vierge, mais qui ne fait que penser des pensées. Une vierge sage, elle aime Dieu, elle se garde pure pour son Dieu, vierge, mais elle transmue ses pensées dans des valeurs pratiques. Les folles, elles n'y comprennent rien à ces valeurs pratiques, parce qu'elles ne s'y intéressent pas, parce qu'elles sont folles, sont zinzin, il y a quelque chose qui ne joue pas. Elles n'ont aucune conception de ce que c'est que la concentration et la vie pratique de l'épouse sur terre. Pour elles, c'est l'amour, c'est un bouquet de violettes, l'amour, l'amour, l'amour. Il ne faut pas parler d'argent, ah non, jamais, c'est l'amour. Voilà, comme ça, bon. Elles veulent avoir l'amour, avoir, avoir, mais elles veulent avoir, mais elles ne savent pas être, elles ne comprennent pas qu'elles ne peuvent pas être l'un sans l'autre. On ne peut pas avoir sans être, on ne peut pas être sans avoir, c'est pas possible. Une vierge folle ne peut pas comprendre, c'est même pas sa faute. C'est même pas sa faute. Elle doit d'abord trouver. Elle doit comprendre ça, mais c'est difficile pour elle de comprendre. On peut lui dire 1000 fois, elle ne va pas comprendre. Elle doit d'abord trouver le royaume de Dieu dans ce monde, avec les pieds sur terre. Mais la Vierge folle, elle spiritualise tout. Tout est spirituel, et tout ce qui n'est pas spirituel, c'est « faut pas toucher, faut pas ceci, faut pas cela, c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas beau, il faut pas, il faut pas ». Elle doit d'abord trouver le royaume de Dieu dans ce monde avec les pieds sur terre avant de pouvoir jouir des valeurs ajoutées. Mais cela, c'est à cela qu'on reconnaît qu'elles sont folles, c'est parce qu'elles ne sont pas pratiques. Elles ont des enthousiasmes momentanés, mais ça n'a aucune valeur. Elle ne sait rien de la gestion des choses temporelles du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, pour le moment, il est là, sur terre. C'est dans l'Église. Et l'Église, il faut que ça soit quelque chose qui marche. Il faut que ça soit quelque chose qui fonctionne. Il faut que ça soit... Ça ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Mais elles sont folles, donc elles ne comprennent pas, elles ne se rendent pas compte. C'est qu'en épousant celui qui nous a créés, qu'on atteint une confiance illimitée, intelligente et pratique, et qu'on peut atteindre son but ici-bas en vue du but dans le monde futur. Mais c'est en épousant, en prenant la forme de. Ah, Jésus était très pratique. Et même s'il fallait un miracle, ben il faisait un miracle pour payer son impôt. Hein. Mais il fallait l'impôt. Il fallait le payer, hein. Les folles pensent que non, pas besoin, ou alors... Généralement, les folles, elles n'ont même pas de but. Elles n'ont même pas de but. C'est le Seigneur qui va faire. C'est le Seigneur qui va arranger. C'est le Seigneur. Nous, on se lève, je me lève, je te bouscule, je prends mon café, je vais au travail, je range, je lis un peu ma Bible... Comme d'habitude, je me couche, et puis je m'endors à faire la prière, et puis après le lève, je me relève, je te rebouscule, comme d'habitude, et puis voilà, mais il n'y a pas de but. Parce qu'elles sont folles. Vous savez pourquoi il y a les fous? J'ai lu un livre dernièrement extraordinaire là-dessus. Beaucoup de fous ne veulent pas sortir des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils sont bien là. C'est génial l'hôpital psychiatrique. Ils n'ont rien à faire. On leur fait tout, donc elles mettent les pieds sous la table. C'est génial. C'est génial. Vous voyez l'importance d'entretenir une bonne communication avec notre épouse céleste, une bonne communion en tant qu'épouse soumise. Soumise. Les folles, elles n'aiment pas la soumission. C'est aussi à ça qu'on les reconnaît. Elles n'aiment pas la soumission. Une vierge sage... Elle obtient des réponses de son époux parce qu'elle travaille à approfondir en elle-même la conscience de la vie, la conscience de la présence de Dieu en elle-même. C'est en elle-même qu'elle découvre les réalités de Dieu. Or, Dieu est infini. Il imprègne l'univers entier de sa présence et chacun de nous est une partie infinitésimale de lui. Voilà pourquoi il dit, comment ça se fait qu'il y a des divisions parmi vous? Bon, il y avait des divisions. temps de l'apôtre Paul, il y avait des divisions. Paul, oh Paul, dans l'église que tu as fondée, il y avait des divisions. Alors, Paul, c'est toi qui t'es pas bien, t'as des divisions dans ton église. Non, c'était pas la faute de Paul, c'était les folles. C'était les folles, c'était pas le fondateur de l'église qui allait créer une division dans sa propre église et qui allait tout fiche par terre. C'est pas possible, c'est que des insensés qui peuvent penser une chose pareille. En lui, nous vivons, nous mouvons et nous avons l'être, l'existence, mais c'est en lui. Et puis, il n'est pas sourd. Dieu n'est pas sourd. Il n'a pas besoin de lui répéter 10 000 fois les mêmes rengaines dans des séances de prière. Ça fait un peu spirit à la fin. C'est de la folie. Dieu n'aime pas ça. Il en a marre. Il coupe le son. C'est la Vierge qui est folle, qui aime faire ça. Elles aiment faire ça. Des redites. Faut redire encore tout le temps les mêmes trucs. Parce qu'elle n'a pas conscience du lien qui l'unit à lui. Pourquoi elle n'a pas conscience? Les couches d'impureté qu'elle a formées par ses pensées idiotes, par ses sentiments déréglés, par ses actes, tout ça, elle obstrue les voies de la communication avec Dieu. Une vierge folle va vers la dislocation totale. Elle se désagrège, elle se disperse, elle s'éloigne de l'un, elle s'éloigne de Dieu. Et la communion, la communication qu'elle a, elle l'a avec des esprits inférieurs qui lui font croire qu'elle est supérieure aux autres. Et elle croit cela parce qu'elle est folle. Et puis qu'elle ne sait pas qu'elle est folle. Elle n'est plus dans la vérité, elle est dans le mensonge. Elle croit des mensonges aux allures religieuses et elle est stérile, elle ne porte pas de fruits, au contraire. Ça se désagrège. Regardez les œuvres des folles, lisez les écrits des folles, écoutez leurs prétentions et vous saurez qui les anime. C'est tout simple. Jésus disait, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Est-ce que les œuvres de Jésus ressemblent aux œuvres des folles? Non, alors c'est qui les fait? Si c'est pas le Père. Mais gloire à Dieu, il y a quand même un espoir. Parce que Dieu a donné à tous les siens la possibilité de s'approcher de lui et de devenir comme lui et de faire les mêmes œuvres que lui. Mais il y a une condition. Retourne d'abord à la poussière. Retourne à la poussière. Même les créatures les plus limitées possèdent les moyens de se dépasser. Si, parce qu'il y a toujours une condition, si elles acceptent de tourner leur regard et leur pensée vers ces régions où brille l'étincelle divine. Jésus était parfait, tout le monde dit Amen. Il était parfait, même dans le temple, un fouet à la main. Simplement, ce qu'il fallait, c'était pas le foutre en colère. Il ne serait jamais mis en colère s'il n'y avait pas eu des zinzins dans le temple qui faisaient des zinzineries. Dieu, son Père, est parfait. Même dans ses colères, il a des colères destructrices terribles. Même dans ses jalousies, il est parfait dans sa jalousie. Il est parfait même dans la vengeance. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous vengez pas, car c'est à moi qu'appartient la vengeance. Lui, il se venge, lui. Il est parfait dans sa vengeance. Il ne pêche pas dans sa vengeance. Pourquoi? Parce que c'est juste. Parce que c'est juste. Les vierges folles ne peuvent pas comprendre ça. Parce qu'elles sont des espèces de sentimentales, dégoulinante de bons sentiments, complètement irréaliste, des idées complètement irréalistes. Voilà. Pour pouvoir comprendre ces choses, il faut avoir la vraie connaissance de qui est vraiment Dieu. Et la vraie connaissance, elle n'est pas intellectuelle. Elle ne se trouve pas sur Wikipédia ou dans les bouquins qu'on peut lire à gauche, à droite. La connaissance, c'est une fusion. elle est une union féconde. Et cette fusion, cette union féconde, cette connaissance, elle engendre la vie. Cette loi, elle se vérifie dans le domaine physique. C'est comme ça que ça se passe, hein. Et puis, elle se vérifie dans le domaine spirituel. Sans fusion, pas de miracle de la vie, pas de reproduction. Qu'une continuation de division, de comment on dit, c'est compliqué à dire, mais vous m'avez compris. Et puis voilà. Et puis voilà, puis c'est comme ça. Alors, ils seront sauvés, comme au travers du feu. Ils perdront leur récompense, mais ils seront sauvés. Parce que Dieu les aime. Nous aussi, on les aime. Nous sommes kikines, mais on les aime quand même. Vous les aimez pas? Bien sûr qu'on les aime. Bien sûr qu'on les aime. Mais bon. Dieu, il a pris une distance. À partir du moment avec Adam et Ève, ben, nous aussi, on prend une distance. On leur laisse le jardin, même, ils n'en veulent pas. Mais nous, on s'en va. Amen. On s'en va parce qu'on a envie de vivre quelque chose de spirituel, c'est-à-dire d'intelligent, de productif, comme on a toujours fait jusqu'à maintenant. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je ne sais pas exactement quelle heure il est. Ah, on est à 3 minutes près. Il y a notre ami Gustave qui doit être devant son téléphone. Il attend qu'on prie pour lui. C'est un homme qui a lu les témoignages sous révélation Bible et qui a un problème de maladie et il demande qu'on prie pour lui. Alors on va prier pour lui. D'accord? Je vais l'appeler, on va prier pour lui. Seigneur, je te remercie pour ce moment de méditation que nous avons eu. Aide-nous, Seigneur Jésus, à avoir toujours une bonne communion avec toi, une bonne communication, que nous ne nous illusionnions pas, qu'on ne se fasse pas des illusions au sujet de notre communion avec toi, mais que nous puissions voir par les fruits la qualité de notre communion avec toi et avec les uns et les autres qui pensent comme toi, qui parlent comme toi. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur mon Dieu de nous permettre de continuer cette œuvre communautaire et de l'agrandir telle que tu es en train de le faire. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Dieu. Amen. Amen.